D'abord, je suis très très heureux de revenir après un long voyage de un mois aux États-Unis. Et je voudrais vous dire que, sans rentrer dans tous les détails, de grandes choses sont en train de se passer dans le monde. Et la chose essentielle pour moi, c'est que la prophétie est en train de revenir dans le peuple d'Israël, qui sous-entend que nous sommes vraiment à la porte d'un grand dévoilement. Je ne peux pas dire plus pour l'instant, mais Baruch Hashem, il y a des phénomènes extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, c'est véritablement dans le sens du terme, qui sortent de l'ordinaire, de ce que nous avons l'habitude de vivre dans l'ordinaire, mais que nous avons comme prophétie, que la prophétie reviendra au temps messianique, et cette prophétie est effectivement en train de revenir. Nous avons des messages clairs qui nous arrivent de l'au-delà. En ce qui concerne ces messages, on peut parler aussi de rêves. De rêves. Et ces rêves font partie de l'esclavage d'Israël en Égypte. L'exil d'Égypte, dans les écrits du Hari HaKadosh, vient pour réparer la faute du premier homme. Adam HaRishon a fauté dans deux fautes essentielles. Et nous considérons ces deux fautes comme la faute du premier homme. La première des fautes, c'est ce qu'on appelle en araméen « Yitzra des minutes ».
C'est trop froid, non?
C'est
froid, hein?
Le Yetzer de la minute. Que veut dire le Yetzer de la minute? C'est tout simplement une attirance vers la logique humaine au détriment de la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous offre. Vous savez que la logique humaine nous bloque lorsqu'elle vient avant la vie. En effet, nous devons d'abord consommer l'arbre de la vie et essayer de comprendre cet arbre de la vie par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si nous commençons par consommer l'arbre du bien et du mal, on tombe immédiatement dans un domaine superficiel qui n'est pas le domaine essentiel. En hébreu, le mot « higayon » contient en lui les trois lettres du mot « yavan », la Grèce. C'est-à-dire que le « higayon » c'est un hege, c'est un volant qui nous fait conduire selon la logique humaine seulement. Et c'est exactement toute la mythologie grecque et tout ce que l'hellénisme a fait venir dans le monde. Adam Rishon est tombé dans ce premier degré. On va essayer de comprendre comment. Il est tombé par la suite dans un deuxième degré qui fait partie aussi de la faute. À part le fait d'avoir consommé de l'arbre de la logique qui s'appelle le serpent. Le serpent n'était pas un animal. Le serpent c'est la logique humaine déconnectée de la vie divine. La deuxième faute, c'est ce qu'on appelle Yitzra de Arayot. C'est-à-dire qui attire l'homme vers les relations interdites, au niveau sexuel. Alors on va commencer par la première des fautes du premier homme, car il a fauté dans les deux. Yitzra de Minout, le premier Yetzer, et c'est celui dans lequel nous pouvons tomber, bien entendu, ce n'est pas seulement le premier homme qui est tombé là-dedans, mais chacun de nous qui peut retomber dans ces deux erreurs, puisque nous sommes les fils de Adam. Nous devons faire très attention de ne pas perpétuer la faute, mais de l'arrêter et de transformer la faute en tikkun. Le serpent, comme je l'ai dit tout à l'heure, a persuadé l'homme qu'il allait devenir comme Dieu. Vitem ke Elohim. Vous allez être comme Dieu. Yod et Tov Vara. C'est-à-dire que Dieu, en fait, était au même niveau que toi, Adam Arishon. Lui dit son intellect, le serpent. Et lorsque Dieu a goûté de l'arbre, qu'il te dit de ne pas goûter, eh bien, il est devenu, lui aussi, avec une connaissance. Et comme il a peur que tu aies cette connaissance, alors il s'interdit de manger de ce fruit. Comme ça, lui, il reste Dieu, et toi, tu restes un homme. Je me pose toujours la question, pourquoi les médecins écrivent comme ils écrivent? Je me demande si c'est pas pour que eux restent médecins et que nous, on reste malades. Eh bien, le serpent a dit à Adam Arishon, Vitem ke Elohim, ki odea Elohim, parce que Dieu sait que lorsque tu mangeras, tu vas grandir. Cette faute provient de ce que les kabbalistes appellent Melachim Kadmaim, les rois d'avant. Qu'est-ce que c'est que ces rois d'avant? Avant qu'il n'ait un monde de tikkun, le monde est tombé et s'est brisé dans un monde qui a précédé le nôtre. Le monde qui a précédé le nôtre s'appelait Olam Hanekudim. Le monde des points. Que veut dire cette notion de point? C'est le monde de la séparation de toutes choses dans ce monde. C'est-à-dire que lorsque l'homme, la femme, n'arrive pas à concevoir que ce monde est une entité, qu'il a l'impression que les choses sont séparées et qu'il n'y a aucun rapport entre tous les éléments de cette vie, eh bien, il risque de tomber une fois de plus, une fois encore, dans ce domaine de Nekudim, du monde des points, du monde des détails qui ne voient plus l'image globale. Exactement comme si on considérait l'homme comme un ensemble de membres, sans concevoir l'humain qui est en lui. Eh bien, l'univers tout entier est une seule et même unité. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. C'est là, c'est cette kavana qu'il faut avoir quand on dit le Echad de Shema Israël. C'est de concevoir qu'il n'y a rien d'autre que cette unité. Que rien ne sort du contrôle de l'infini, de l'absolu. À partir du moment où un élément sort, se retire du tout, c'est comme s'il prenait considération de son être à part entière et il a l'impression qu'il est lui-même l'aboutissement. Or l'aboutissement s'appelle Malchut. le Baal Shem Tov, Zchuto Tagen Alenu, a dit que chaque fois que quelqu'un perd l'image globale, eh bien il tombe dans ce phénomène qui s'appelle en hébreu, comme il l'a défini lui-même, Ana Emlor. C'est moi le roi. C'est-à-dire que je prends en réalité la vie comme si j'étais une existence à part entière, qui ne vit pas d'autrui. Alors que nous, ceux qui ont la Emouna, nous savons que nous vivons de son être absolu, que nous n'avons pas de vie, si ce n'est sa vie qui nous traverse. Cette pensée négative de l'homme sépare les éléments et fait en sorte que l'homme ne voit plus l'unité. Et lorsqu'il perd cette unité, il tombe dans les peurs. Parce que la peur provient d'une seule et même chose. C'est qu'au moment où tu as peur, tu as l'impression qu'il n'y a pas de contrôle, que l'absolu béni soit-il n'est pas dans la situation. La preuve, c'est que tu as peur. Car si tu avais confiance dans son degré d'existence, même dans la situation dans laquelle tu es, tu n'aurais pas eu peur. Et la preuve que tu as peur, c'est qu'à ce moment-là précis, tu as sorti Akadosh Baruch Hu de ta vie. Et le Yetzer Hara te fait croire que tu es seul dans la situation présente. Et donc tu vas tomber dans l'angoisse. Le tikkun de cette erreur se fait par un nom dans la Kabbalah qui s'appelle Shem Ma. Shem Ma. Le Shem Ma est un nom qui provient en réalité du nom d'Hachem, le tétragramme Yud Ke Vav Ke. Lorsque je remplis ces quatre lettres par des Aleph, c'est-à-dire que le Yud reste Yud Vav Dalet, mais le He, je l'écris He Aleph, et le Vav, je l'écris Vav Aleph Vav Vav, et le dernier He, encore une fois He Aleph. Mais quand je prends la totalité de ces lettres, j'obtiens le chiffre de Ma 45, qui est, comme par hasard, le chiffre correspondant à l'homme, Adam, et à la Géoula, à la rédemption. Mais dans le sens simple, ce terme veut dire quoi? Ma, c'est une question. Et mon cher Abenou, dans une interrogation, se pose la question Venachnu, ma, traduction libre. Qu'est-ce que nous sommes, après tout? Pas grand-chose. Sous-entendu que mon cher Benou est arrivé à un degré d'humilité, de la reconnaissance de ce nom d'Akadosh Baruch Hu qui l'éclaire. Je veux dire par là que si vous entendez recevoir un jour la Shrina, celle-ci ne pourra jamais venir tant que vous n'avez pas vous-même acquis ce degré d'humilité qui vous fait poser la question « Venachnu ma ?» Cette question de mon cher Rabbeinu vient nous dire qu'en réalité, nous n'avons aucune existence à part entière, si ce n'est que nous vivons de son être. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le nom de l'existence, Shem Havaya, l'Iyot, à l'infinitif, Lehevot, Lehavot, faire être, Ani Hove, je vis au présent de son être. Après cela, ce tikkun de Shemma, nous disent les Chachamim dans la Kabbalah, il sort du front de l'homme. C'est-à-dire que toutes les fautes sont inhérentes aux parties inférieures de notre vie. Et le tikkun vient lorsque nous éclairons à nouveau nos vies par le degré supérieur qui s'appelle le Metzach. Et c'est dans ce Metzach qu'est caché ce Shemma. Les Chachamim nous disent que c'est ce Metzach que vous devez voir dans le verre de la Havdalah, du Motsaï Shabbat, en pensant que de là vient le tikkun, tous les tikkunim. Kamouvan que ça vient de Metzach, du premier monde qui s'appelait Adam Kadron, et qui donne en réalité toute la possibilité des tikkunim et des réparations. Metzach, en inversant les mots, les lettres, devient Tzemach, qui est le nom du Mashiach. C'est-à-dire que la force du Mashiach vient, elle aussi, de ce qu'on appelle le Shem Ma, relatif à la Geoula, valeur numérique 45. C'est en réalité un angle à 45 degrés qui se dévoile dans notre vie. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, cette préparation a commencé d'elle-même, avant que l'homme n'apparaisse, en voyant tout simplement la création du monde, l'homme et toutes les créatures, même avant l'homme, doivent prendre conscience qu'il y a un créateur et qu'il y a un dirigeant et qu'il y a un ordonneur qui est « et shamecha » lorsque je regarde tes cieux, « ma'afé et shamecha » l'action de tes doigts. Yareach vekochavim asher konanta, la lune et les étoiles que tu as mis en place, je ne peux pas rester avec la croyance que je suis une existence à part entière. Je dois comprendre en regardant la nature que je fais partie d'un ordre. On a l'habitude d'employer le terme cosmos. Eh bien, le cosmos, en traduction, veut dire l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a ici un grand ordre, et je fais partie de cet ordre-là, comme les cellules font partie de mon corps. Et donc, quiconque regarde l'existence de la nature, est obligé d'arriver à la conception qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Et non seulement qu'il y a quelqu'un derrière tout ça, qu'il y a quelqu'un qui conduit, qui dirige le tout. C'est où marom enechem, ou où mi bara el. Quand vous levez votre regard, pas lorsque vous regardez le ciel simplement, c'est-à-dire quand vous approfondissez votre regard, quand vous le levez, quand vous le hissez à un monde supérieur, vous êtes obligé d'arriver à voir mi. Comprenez, on a changé déjà. On n'est plus dans le ma, on est dans le mi, qui est encore plus élevé. Et que ce mi-là, cette identité infini, toute puissance, bara, elle, il a créé le pluriel. Quand vous associez le mi à elle, vous avez le nom de Elohim. Et donc les sages nous disent que la nature elle-même nous conduit à comprendre l'existence de l'éternité. Et c'est comme ça que je corrige cette faute énoncé par le Baal Shem Tov et ses élèves, alayhim ashalom, zkhutam tagen aleinu, amen, de Anna Emloch, que j'ai l'impression d'être une existence à part entière. Ce qui est la plus grande des fautes. C'est comme ça que le monde a commencé à tomber. La chute de Adam Arishon, sa première faute, était provenée de Yitzra Deminut, de ce Yetzer, justement, qui lui faisait croire à Adam Arishon qu'il était une existence à part entière. Et donc, que c'était son cerveau, à lui, qui devait diriger sa vie. Il ne comprenait pas qu'il y avait un conseil cosmique, infini, qui était beaucoup plus haut que sa propre vision du gigayon dans laquelle est inscrite la notion de Yavan. C'est pour ça que le Ari HaKadosh nous écrit dans le Ephraim, son livre clé, que durant les 6 jours de la création du monde, HaKadosh Baruch Hu a déjà procédé au début du tikkun de ce Olam HaNekudim, de ce monde des points. Ne regardez jamais la vie comme un ensemble de points. C'est une entité qui se diffuse et qui se révèle en 2 milliards de détails. Mais ne tombez pas dans l'erreur de vous perdre dans les détails. Seulement, HaKadosh Baruch Hu n'a pas terminé le tikkun. Il a laissé une partie à Adam Arishon. Pour qu'Adam Arishon arrive à la Emunah Shlema, dans l'existence d'HaKadosh Baruch Hu, dans l'existence de cet ordre qui a précédé à tout. Malheureusement, dès que l'homme est apparu dans le monde et qu'il devait terminer ce qui a déjà été fait à 99,999% par HaKadosh Baruch Hu lui-même, Rabotai, ayez conscience qu'on est venu réparer 0,000000, peut-être un petit 1 à la fin, et que ça nous prend 6000 ans. Et qu'on n'arrive pas, et dans nos vies individuelles, on n'arrive pas de retomber dans les mêmes fautes que nous avons commises hier et avant-hier, et au niveau global de l'humanité tout entière. Et donc l'homme qui a été créé dans le 6e degré, la fête Yom HaShishi, c'est là où son intellect que nous appelons le Nahash, s'est activé. Et la Yitzra de Minut, ce Yetzer-là, de faire prendre conscience, mauvaise conscience à l'homme qu'il est une existence à part entière, a commencé à travailler et à cacher des yeux, de l'intellect, du cœur de l'homme, cette existence de Mi Bara Elle. Et donc il est retombé dans l'erreur « Vi'item ke Elohim yod et tov vera » comme le serpent, son intellect, son intelligence, « Arum » veut dire « Chacham »« Ve'anachash haya Arum »« Orma » en hébreu. Eh bien cette intelligence a forcé l'homme à voir différemment et à croire qu'il était lui-même Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'est créé un écran qui sépare l'homme du Créateur, Chas v'Shalom. Et il est tombé dans ce qu'on appelle Yitzra des minutes. Malheureusement, si ce n'était que chez Adam Arishon, mais cette chose-là peut revenir chez chacun de nous. À chaque fois que votre décision prédomine la volonté d'HaKadosh Baruch Hu dans n'importe quelle résolution de votre vie, on retombe dans cette faute. Comprenez bien que notre intellect est très futé et qu'il nous joue des tours et qu'on a du mal à faire confiance à l'absolu béni soit-il. On préfère faire confiance à ce qu'on a l'impression qu'on touche avec notre intelligence. Malheureusement donc, toute l'existence a perdu la conscience de ce grand conducteur, de ce grand ordonneur. Tout a été camouflé dans ce qu'on appelle kutnot. Oh, c'est ça les vêtements de peau. Alors qu'au départ, nous avions des kutnot or, des vêtements de lumière. Nous voyions ce qu'il y avait dedans. Aujourd'hui, nous avons un écran qui obstrue et qui ne nous laisse pas voir l'essence des choses. C'est pour ça qu'il est tellement important à la fin des temps d'étudier la Torah du Sod. Parce que la Torah du Sod nous redonne la possibilité de voir le dedans. Parce qu'elle nous donne la possibilité de voir le tout. Et ne pas tomber dans le piège des points. Les autres degrés de la Torah, même quand on étudie la Torah, peuvent nous laisser dans un monde de séparation. Si on n'a pas, en plus de son étude normale, classique, l'étude des secrets. Et donc je peux étudier la Gemara toute la journée, si je n'ai pas la conscience de l'infini qui gère le tout, je peux me paumer dans des sougiotes, même de la Gemara. Et donc notre grand tikkun, aujourd'hui, notre grand nissayon, c'est ce qu'on appelle la emuna behira. Avoir une emuna claire, une certitude, pas une croyance, une certification de l'éternité par mon être. C'est pour ça que le peuple d'Israël est tombé en Égypte. Je reviens aux paroles du Hari HaKadosh. Parce que l'Égypte était là, pas pour punir, mais pour nettoyer la matière grossière qui s'est installée à cause de la faute de Adam HaRishon. En réalité, tout ce qui est tombé de Adam HaRishon est tombé en Égypte, dans la notion d'Égypte, qui se trouvait comme par hasard dans le pays d'Égypte. Mais c'est une notion avant tout. Et il fallait sortir tout ça, c'est-à-dire corriger. Pendant toutes les années où Adam HaRishon a fauté, il fallait en Égypte réparer. Adam HaRishon, après sa faute, s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. C'est pour ça que Moshe va naître après 130 ans que le peuple d'Israël est déjà en Égypte. Parce que c'est lui qui est le Shem Ma. Dans le mot Moshe, il y a le Shem Ma. C'est lui la Geoula. C'est lui le Mashiach. Mais pas seulement au niveau extérieur, dans chacun de nous. Nous avons ce Moshe. Et nous devons le retrouver pour justement sortir de cette évidence de « je suis le roi ». Chacun de nous croit que tout lui est dû. Et quand on ne fait pas ce que vous avez envie, vous vous mettez en colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous avez une conscience que c'est vous qui dirigez le monde. Et que si on ne veut pas votre volonté, eh bien, ça va plus. Moshe Rabbeinu n'était pas là-dedans. Moshe Rabbeinu n'avait pas d'ego. La plus grande des punitions de l'homme, c'est son ego. Et donc, il va falloir tomber dans l'humilité. Qu'est-ce qui va nous faire tomber dans l'humilité? L'esclavage. En Égypte, quand tu prends conscience que tu n'es qu'un esclave, tu commences à prendre conscience que tu n'es pas grand-chose. Et regardez, c'est incroyable, parce que c'est seulement dans cette situation que tu peux voir le miracle d'Akadosh Baruch Hu, donc la sortie d'Égypte. Autrement dit, n'ont vu le dévoilement de Dieu que ceux qui sont arrivés à l'humilité. Comprenez ? C'est-à-dire 20% de l'être. Et 80% de l'être que nous sommes reste encore dans son orgueil. Et c'est pour ça que Paro et ses serviteurs n'ont rien vu. Comment se fait-il qu'avec toutes les plaies, toutes les forces qu'Akadosh Baruch Hu dévoile dans ce monde, ils ne voyaient pas, ils restaient aveugles. Eh bien justement parce que l'ego était tellement fort que chez Paro, la faute de Adam Arishon, elle était en exergue. C'est-à-dire que, si je reprends avec des termes simples, Adam Arishon, il est tombé jusqu'à Paro. Il est devenu Paro quelque part. Alors qu'il a perdu son Moshé. Et lorsque Adam Arishon va retrouver son Moshé, il va sortir de son Paro. Vous comprenez comment ça marche? Et c'est en chacun de nous. Et donc l'Égypte est une grossièreté. C'est la grossièreté de l'être. Si Chas v'Shalom, on vous considère à vous comme Égypte, c'est la plus grande des insultes. Tu es Égypte. Tu es Israël, c'est la plus grande des bénédictions. Ceci jusqu'à l'ouverture de la mer, où après, même l'Égypte a eu connaissance du tétragramme. Mikamocha, Baelim, Yutke, Vavke. Même Paro finira, et c'est une prophétie, qu'à la fin des temps, même le mal va reconnaître l'existence de cette unité dont je parle depuis tout à l'heure. Et c'est pour ça que les sages nous disent « Bisrut ha-emouna yas'u Israël mimitraim ». C'est seulement grâce à la emouna, dans cette notion-là, de prise de conscience de l'organisateur global de l'univers, qu'on peut sortir et s'en sortir de toute forme d'Égypte, de toute forme de prison mentale, physique, psychique. C'est-à-dire dès que je me libère de Ana Emloch, de je suis le roi, et revenir à l'état initial, comme Akadosh Baruch Hu le voulait. Tout ça, c'est la première faute du premier homme. La deuxième faute du premier homme, c'est Yitzra de Arayot. C'est la faute des relations interdites. La Torah parle un langage propre. Mais en réalité, c'est ce qu'elle nous raconte en nous disant que l'homme a goûté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors oubliez le fait qu'il ait mangé un fruit. Tout simplement, il y a eu consommation. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport intime avant l'entrée du Shabbat. Et donc, il est tombé dans cette attirance sexuelle. C'est-à-dire qu'il est tombé dans l'attirance de la matière, dans l'attirance du corps, dans l'attirance de l'extériorité. Et c'est ce que les Chachamim nous disent, que le Nachash itil zohama bechava, que le Nachash a introduit dans le corps de Ève une semence négative. C'est ça en réalité ce rapport interdit. C'est comme si Adam Arishon s'était rempli d'une force qui l'a attiré vers quelque chose qui devait attendre un peu. Et donc ce qui était jusqu'à maintenant une action de Kdusha est devenu une action perverse. D'autant plus qu'Adam Arishon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'est séparé de son épouse pendant 130 ans et a continué tout seul à faire sortir de son corps de la semence, nous disent les Chachamim, Et toutes ces gouttes de semence, ce sont les Neshamot du peuple d'Israël qui était en Égypte. Et ce sont nous aujourd'hui. Nous sommes toutes ces gouttes de semence qui ont été éparpillées. Olam Hanekudim. Et qui maintenant se regroupent pour reformer le peuple que nous sommes, surtout sur la terre d'Israël. Et c'est pour ça que cette correction s'appelle Tzadik. N'est pas appelé Tzadik n'importe qui. Tzadik, c'est seulement celui qui sait corriger cette faute-là. Or, il est dit sur ceux qui habitent en terre d'Israël, qu'ils sont tous des Tzadikim. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que nous sommes un tout et que nous donnons notre semence à la royauté d'Israël sur sa terre. Ve'amer kulam tzadikim le'olam irshuer, et à condition qu'ils héritent la terre d'Israël. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit que quiconque habite en dehors de cette terre d'Israël perd, continue de perdre sa semence, éparpille ses forces vers des nations étrangères à sa propre identité. Et c'est quelque chose de très grave. Alors comme les gens ne comprennent pas, alors Kadosh Baruch Hu va utiliser des moyens, comme il le fait aujourd'hui, pour que 40% des Juifs d'Europe veuille maintenant rentrer en terre d'Israël. Je ne sais plus comment faire. Comment savoir que la France est en train de se partir en cacahuète, c'est fini. C'est fini. C'est la racaille qui règne. Et les gens ne comprennent même plus. Il y a eu un ordre ce Shabbat de ne même pas aller aux synagogues. Eh bien, même cette faute-là, du premier homme, de cet éparpillement de semences, les enfants d'Israël sont descendus en Égypte pour corriger. Grâce à quoi ? Grâce à l'esclavage, jusqu'à ce que leur matière redeviennent propres pour les sauver de cette erreur de l'humanité tout entière lorsqu'elle était dans un seul corps, celui de Adam Arishon. La preuve en est, c'est que 50 jours après la sortie d'Égypte, il est écrit clairement dans la Gemara, Pascha Zohamtam, il n'y avait plus l'influence du serpent. Ça veut dire qu'on s'était nettoyé complètement. Et Akadosh Baruch Hu nous a traités à ce moment-là de Dieu. Amarti Elohim Atem. Ubne Elion Kulchen. Et vous êtes les enfants du supérieur. C'est-à-dire comme les anges qui ne sont pas attirés par la matière. On est arrivé à ce degré-là. Moralité, l'exil d'Égypte a opéré, a travaillé. Et c'était bénéfique. Quand vous avez certains problèmes dans votre vie, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut peut-être vous nettoyer de certaines choses. Et celui qui ne voit pas ça, il voit que le négatif. J'étais en Égypte. Je n'ai pas compris ce que j'ai gagné en étant en Égypte. Malheureusement, une fois de plus, la faute du veau d'or a tout cassé. Tout ce qui a été arrangé, tout ce qui a été réparé. Regardez comment c'est grâce à chaque fois que nous atteignons un degré ultime, nous retombons. À chaque fois que vous touchez une grande lumière, vous risquez de retomber. Pourquoi ? Parce que l'ego se met en place. Et si on restait à chaque fois humble, jamais on ne tomberait. Et c'est pour ça que nous sommes tombés dans les deux degrés, dans les deux fautes. Car la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il y avait en elle? Eh bien, les deux degrés. On a perdu la Emouna, puisqu'on a pris un veau d'or à la place. Et il y a eu, malheureusement, pendant la faute du veau d'or, des relations interdites. Et la Gemara nous dit qu'ils ont fait le veau d'or que pour ça. Parce qu'ils avaient envie d'aller les uns avec les autres. Pour réparer ça, cette faute-là, cette deuxième faute qui incombe aux parties de la vie, Yosef est descendu premier en Égypte. Yosef qui représente cette partie dans le corps humain. Yosef a tzadik, c'est la Brit Mila. C'est la partie qui donne la vie. C'est pour ça que c'est lui qui est allé en premier en Égypte, parce que c'était en lui, entre guillemets, qu'Adam Arishon a fauté. C'est comme si Adam Arishon avait jeté son propre Yosef au trou. Dans un trou qui n'était pas celui qui correspondait à sa nature. Regardez comme la Torah est profonde. Et si tu ne sais pas gérer, et que tu fais n'importe quoi, le trou vers lequel tu jettes ton Yosef, il est rempli de scorpions et de serpents. Et Yosef, qui est la force de la Kedusha, de la sainteté, il est l'antithèse de Yitzhak et Arayot, c'est-à-dire de cette attirance vers les relations interdites. D'ailleurs, c'est grâce à Yosef qu'en Égypte, on n'est pas tombé dans cette faute. Les Chachamim nous disent qu'aucun homme, aucune femme n'est tombée en Égypte dans la faute des relations interdites, à tel point que dans le Shir HaShirim, il y a marqué « Gan Naoul Achoti Kala ». Les femmes sont devenues comme des jardins fermés à clé, c'est-à-dire personne ne pouvait pénétrer. « Gal Naoul Ma'ayan Khatoum ». Tout était propre. Et ça, c'est déjà un miracle en soi. Parce qu'en Égypte, dans le pays lui-même de la perversité, la plus grande qui soit, vous pouvez même pas vous imaginer, se garder de cette fosse-là, c'est vraiment un effort surhumain. À tel point qu'il y avait une seule qui a fauté là-dedans. Et que la Torah l'a mentionné. Achataïta, ou pirsema hakatuv, shlomit. Vous savez que l'Égypte correspond à ce qui se passe aujourd'hui dans les pays d'Europe et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout ce que je peux vous raconter, c'est rien à côté de la réalité. À un moment donné, j'étais avec des artistes, parce que je suis allé aussi pour une exposition. Et on nous a invités, soi-disant, à sortir, boire un verre. Et on est rentré dans un endroit où des nains nous ont ouvert la porte, avec des capuches noires pointues. Des nains. Une centaine de nains. Dans un environnement peint en noir avec des bougies. La clipa par essence rabotaille. Et chaque pièce qui avait Chas v'Shalom des relations interdites. Parce que je ne savais pas. C'était des artistes. Et j'ai compris en réalité de quoi vous rentrez dans une porte, vous êtes dans un autre monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer des nains qui vous ouvrent la porte avec, vous savez, comme les moines. Allah Istan. Mamash, le Satan. Yosef HaTzadik a corrigé cette faute. de Yitzra, des Arayot, et de Yitzra, de Minout, les deux. La preuve, c'est qu'il a fait en sorte que Paro reconnaisse Akadosh Baruch Hu. Et Asher Ose HaElohim Gila les Paro. Il a fait en sorte que même Paro commence à prononcer le nom de Elohim. Certes, pas le nom de Yudke Vavke encore, mais c'est pas grave. C'est une étape. Et pas la moindre. Et ta chère à ça, Elohim. Et ta chère à Elohim, on sait, il guide les paroles. C'est très important. Donc il a corrigé la première des fautes de Adam Arishon. Et Kamouvan la deuxième des fautes, puisqu'il était lui-même sauvegardé de cette attirance qu'il a eue envers la femme de Potiphar. Pourquoi il est rentré là-bas? Hein? Yosef Asadik. Eshet Potiphar. Moralité, vous voyez que tout ce cheminement est ordonné par Akadosh Baruch Hu. Et tout le tikkun fut terminé, en tout cas bien avancé, par Yaakov Avinu, qui a dit, avec ses enfants lui ont dit, pour la première fois dans l'histoire, Shema Israël, Adonai Elohenu Adonai Echad, c'est les enfants de Yaakov qui ont dit ça. Et lui, Yaakov leur a répondu, Baruch Shem, Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est-à-dire que lorsque ces deux fondements sont rétablis, eh bien on peut arriver à la réception de la Torah, pas seulement sur le mont Sinaï, je parle de vous. Quand vous ouvrez un livre, si vous voulez comprendre ce que vous lisez, c'est grâce à ces deux fondements-là que vous allez corriger dans votre vie. En corrigeant le Yitzra des minutes, c'est-à-dire de ne pas croire que je suis le roi, et en corrigeant le Yitzra des Arayot, en faisant attention à la relation sexuelle. Et c'est pour ça que les deux, les Malachim, les Malachim Asharet, ont posé leurs mains sur les enfants d'Israël au moment du don de la Torah, et leur ont donné deux couronnes. Une couronne parce qu'ils avaient corrigé la Emouna, et une couronne parce qu'ils avaient corrigé les relations interdites. Et c'est ça le Naaseh v'Nishma. Naaseh, c'est au niveau sexuel, et Nishma, c'est au niveau intellectuel. C'était ces deux corrections-là qui nous ont apporté ces deux couronnes. Tout ceci nous conduit à la fin du shiur, pour comprendre un tout petit peu les rêves. C'était juste une ouverture. Les rêves de Yosef, eh bien, ils touchaient ces deux domaines, Rabotai. Premier rêve, mais Almim, Aloumim. Aloumim, qu'est-ce que c'est Aloumot en hébreu? Pardon? Non, pas Yahalomim. Aloumim, des gerbes. D'accord? Mais l'étage de nous faire remarquer que dans le mot aloumim, il y a le mila, le mot mila. Ça veut dire que c'était en réalité un rêve, entre guillemets, qui corrigeait tout l'aspect sexuel. Il a vu la brit mila de tous ses frères. Et lui était au milieu. Sa mila était vivante. Kama vegam nitsava. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Mais en réalité, c'est la correction de cette faute-là. Alors que le deuxième rêve de Yosef, c'était les étoiles, c'est-à-dire Avodat Kochavim, Avodat Zara. Encore une fois, nous avons touché les deux domaines. C'est-à-dire le premier domaine, c'est la correction. Yitzra de Arayot. Deuxième rêve de Yosef Hatzadik, où les étoiles et la lune se prosternaient devant lui. Correction de Avodah Zara. Et les rêves de Sarah Mashkim et Sarah Ophim, c'est pareil. Sarah Mashkim, Mashke, celui qui sert à boire, en réalité c'est une allusion au Zera. Et celui-ci a été remis à sa place parce que Yosef a fait sa correction. Le deuxième nom, c'était Sarah Ophim, c'est le pain c'est la Chochma. La preuve, nous dit la Gemara, le bébé ne peut pas dire papa tant qu'il n'a pas goûté du blé. Et la papa, c'est la Chochma, c'est le koach shel Abba, ce qu'on appelle Mochin de Abba dans la Kabbalah. Donc vous voyez que les deux rêves sont encore une fois liés, reliés aux deux fautes essentielles du premier homme. Et après les rêves de Paro, la même chose. Les sept vaches, c'est la chair, c'est le péché de la chair, c'est les relations sexuelles. Et le deuxième rêve de Paro, c'était le blé, le pain, encore une fois, la Avodah Zara. Vous voyez qu'il y a un ordre dans toute cette Torah, c'est extraordinaire. Et nous, nous avons reçu comme cadeau le Shabbat. Le Shabbat nous aide à corriger tout ça, Rabotai. Shabbat, nous disons deux choses. Zecher l'Itiat Mitzrayim. C'est-à-dire, on n'est pas tombé dans la Touma des relations interdites. Mais on dit en même temps, Zecher le Maaseh Bereshit. C'est-à-dire, on ne tombe pas dans le piège que le monde était là. On comprend bien qu'il y a un créateur. Donc on corrige les deux fautes, Shabbat, et la faute qui est liée aux relations interdites, et la faute qui est reliée à la Emouna, Chas v'Shalom, que nous sommes une existence à part entière. Horaï v'Rabotai, pour vous dire que nous sommes dans une période extraordinaire, comme je vous l'ai dit au début de mon propos. Sans rentrer dans les détails, mais Be'ezrat Hashem, bientôt vous allez recevoir des informations concernant ce que je suis en train de vous dire maintenant. La prophétie est déjà revenue dans le monde, dans le peuple d'Israël, en Eretz Israël. Si je ne l'avais pas vu, je n'aurais pas osé vous dire ce que je suis en train de vous dire. Les choses sont en train de se mettre en place. Il y a toute une forme de construction qui est en train de se faire autour de ceci, parce que nous sommes à la porte du troisième Beth Amikdash. Cette prophétie va nous dire d'une manière claire comment diriger nos vies. C'est une parole qui nous vient de l'au-delà. Comme il y avait à la période du Ramchal, où il y avait des Magidim, où on venait lui dire exactement les choses, clairement. C'est revenu aujourd'hui, Rabotai. C'est là. Et bientôt, Be'ezrat Hashem, vous allez entendre un petit peu plus. Je ne peux pas en dire plus. Mais c'est assez juste pour vous donner confiance dans tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Nous sommes à la dernière lumière de Hanouka. Cette dernière lumière de Hanouka, c'est une éducation, comme tous les jours de Hanouka. Ça vient nous éduquer à quoi ? Eh bien, tout simplement à traduire nos valeurs intérieures en réalité. C'est ça le Pirsoumanes. Pirsoumanes, c'est pas mettre une chanoukia à la fenêtre du 40e étage pour que mon voisin d'en face voit la chanoukia. ou bien allumer des chaloukiot dans la rue. C'est pas ça le pirsoum anes. Le pirsoum anes, dans sa réalité profonde, kabbalistique, c'est que le nombril, vers le bas, reçoive les lumières de ce qu'il y avait dans le nombril vers le haut. C'est-à-dire, dans ma pensée, il y a des valeurs. Et j'ai besoin de passer, de transmettre ces valeurs, d'éduquer ma partie basse, mes jambes, mes pieds, qui s'appellent les enfants. Et c'est ça le secret de Hanouka. Moralité, l'allumage de Hanouka doit avoir un sens. Il est du haut vers le bas. Aujourd'hui, c'est fini. Mais Bezrat Hashem, vous comprenez que la lumière de l'au-delà est arrivée en ce jour-là dans le Olam Hazeh. La huitième bougie de Hanouka correspond à la Bina qui a éclairé la Malchut. Premier nerf, c'était Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans l'éclairage total de la lumière de la Bina. Or, qu'est-ce que c'est que cette lumière de la Bina? Bien, c'est la lumière de la liberté. C'est la lumière de la Geoula. C'est la lumière du Olam Acherut, du jubilé, du monde où il n'y a plus de contraintes telles que nous les connaissons dans ce monde-là, au niveau du temps, de l'espace et des limites que nous traversons. C'est un monde qui est au-delà de la nature. C'est un monde qui est au-delà du chiffre 7. Mais tout ceci, nous l'accueillons dans notre monde à la dernière bougie de Hanouka. Que cette Kavana Be'ezrat Hashem nous accompagne jusqu'à demain soir. Parce que Hanouka, c'est pas parce que vous avez allumé que c'est terminé. Jusqu'à demain soir, c'est Hanouka. Donc, accompagnez votre journée, votre nuit et votre journée du lendemain avec cette conscience-là que le monde de la liberté totale est en train d'arriver dans le monde des contraintes et des mesures. Toda Rabah.